la pianiste du jazz.
Hier et aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
On a souvent dit que, comme toute musique populaire, le jazz était une question d'oreille. La plupart des gens font du jazz, le font d'oreille.
À l'oreille, oui. Ce que nous, on appelle en Auvergne de routine.
Voilà. Mais alors, que se passe-t-il quand on réunit des gens dans un grand orchestre? Il faut bien qu'il y ait des partitions.
Oui, parce que quand il y a 9, 10, 12 personnes, si on ne veut pas que ce soit la cour du roi Péto, il faut bien organiser tout ça.
Exactement. Surtout que la plupart des grands orchestres effectifs, c'est 4 ou 5 trompettes, 3 ou 4 trombones, 5 saxos et une rythmique. À 4, donc ça fait du monde. Donc il faut mettre tout ce petit monde ensemble.
Voilà, il faut que ça fonctionne. Hein.
Voilà, il faut que ça fonctionne, il faut donc leur donner des partitions.
Et là, les partitions, elles sont écrites.
Il faut les écrire. Oui, voilà, il faut les écrire. Donc c'est là qu'arrivent les arrangeurs. Cela dit, il y a longtemps eu dans le jazz des musiciens de grand orchestre qui étaient là aussi et surtout pour leur qualité de soliste et qui tenaient leur partie dans les arrangements en les apprenant par cœur.
Et ils les apprenaient, c'était les copains qui leur lisaient et leur jouaient leurs partitions, ils les apprenaient de mémoire, et puis c'était impeccable.
Et puis voilà. Mais il faut aussi dire qu'une partition, c'est un pense-bête, qu'une fois qu'on l'a un petit peu engrangée, on n'a plus besoin de la regarder, et que beaucoup de chefs de grand orchestre interdisaient les partitions pendant les spectacles. À une époque, on jouait pour la danse en particulier. Alors on a choisi une formule pour que la musique soit diverse, et qu'on l'écoute sans idée préconçue. Premièrement, on a classé les arrangeurs par ordre alphabétique. Comme ça, hein, ça tape dans toutes les directions.
Il n'y a pas les meilleurs qui s'appellent je ne sais pas quoi. Voilà.
Et ensuite, on ne donnera ni le nom de l'orchestre qui joue, ni la date où ça a été enregistré, seulement l'arrangeur.
Vous aurez donc que la musique toute nue.
Voilà, toute nue, exactement. Et je pense que vous seriez étonnés sur certaines dates, mais ça, on ne les donnera pas. Et je vous signale que là-dedans, il y a un orchestre d'amateurs. Voilà. Mais on ne vous dit pas qui. Le premier qui arrive sur la liste, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, il s'appelait Milt Buckner.
On a souvent parlé de Milt Buckner, vous savez, le petit homme avec des bras si courts qu'il fallait qu'il se déplace pratiquement pour jouer au bout du piano.
Exactement. Et il avait inventé une technique de piano qu'on appelait le block chords, mais qui en fait est la traduction pianistique de son talent d'arrangeur. Et c'est la manière dont il travaille. Voici un très bel arrangement de Milt Buckner qui s'appelle...
Un sourire d'un million de dollars.
Il y a certains sourires qui n'ont pas de prix.
Ah, c'est beau. Ah, c'est comme le petit homme, hein. Il y a beaucoup de punch.
Ah oui, c'est très très tonique, hein, c'est certain. Et c'est très original. Bill Buckner, c'est marqué orgue, un petit peu ce qu'il fait. Quand on entend jouer de l'orgue, on est très proche de ses arrangements. Et il est resté un peu à part, quand même, parce qu'il n'a pas eu beaucoup d'influence, mais il n'en a pas reçu énormément. C'était un créateur très autonome, Bill Buckner. Nous passons maintenant à une des stars de l'arrangement de jazz.
Ah, Benny Carter.
Ah, Benny Carter, lui, au contraire, il a eu une influence extraordinaire sur les autres.
Énorme.
C'est un des très grands arrangeurs. Et son style dérive de sa manière d'improviser, en fait, au départ. Quand on entend Benny Carter jouer du saxo alto, plus que la trompette, mais surtout du saxo alto, on retrouve ses arrangements. Et en particulier, il a un art absolument extraordinaire pour harmoniser une section de saxo. Harmoniser et phraser, c'est tout à fait ça.
Ah bah oui, c'est un saxo lui-même. Hein.
Ouais,
c'est logique.
Là, c'est puis ça chante la manière dont il fait ça. Toujours un gros apport de mélodie. Il y a une gestion de la variété des arrangements avec des interludes, des choses comme ça. On est vraiment dans la composition également. Mmh. Alors voici un de ces morceaux que je préfère comme arrangement. Ce morceau s'appelle
Sommeil, mais ne vous endormez pas, vous
non,
verrez.
Il n'y a pas de quoi s'endormir. Dans ce morceau-là, il y a vraiment absolument tout. C'est un panorama complet de tout l'art de l'arrangeur. Entre le trio de trombone, le quintet de sax, les interludes, les ponctuations, le piano qui envoie aux trompettes bouches. Enfin, c'est génial, un arrangement génial.
On se demande vraiment pourquoi on appelait ça sommeil. Parce que ça vous réveillerait plutôt.
C'est plutôt à réveiller. L'arrangeur suivant s'appelle Charlie Dixon. Il est très peu connu en tant qu'arrangeur. Il était plus connu en tant que banjoïste. Mais il a très vite arrêté le banjo et il s'est consacré à la musique écrite. Et dans ce qu'a laissé derrière lui Charlie Dixon, qui a été très peu enregistré, il y a un autre arrangement, je dois dire, d'un morceau qui est peut-être au départ une valse, je ne sais pas. En tout cas, ça s'appelle
Cette sacrée valse. Ça arrivait assez souvent qu'on prenne un air à la mode, qu'il soit une valse à trois temps, pour en refaire quelque chose d'autre qui est binaire. Hein.
Exactement. D'ailleurs, on a rencontré déjà ce phénomène, Jelly Roll Morton l'a très bien expliqué dans une de nos précédentes émissions en parlant de Tiger Rag, quand il commentait le morceau et expliquait comment on l'avait créé. Alors voilà, c'est cette sacrée valse, et d'ailleurs, à mon avis, l'arrangeur s'est un peu fait chambrer par les musiciens, c'est ça qui a donné le titre, je ne sais pas, enfin, toujours est-il que c'est un arrangement également extrêmement fouillé, complet et vigoureux. Le suivant ne l'est pas moins, mais le style est totalement différent.
C'est Eddie Durham.
Eddie Durham, c'était un homme charmant qui jouait du trombone et de la guitare. Et là, il s'est penché sur le morceau d'un de ses très bons copains, qui s'appelait Edgar Battle, morceau très célèbre, qui s'appelle...
Topsy.
En français...
Topsy. C'est très, très plaisant, très agréable à entendre, souple et en même temps tonique. C'est vraiment un style que j'aime beaucoup. C'est le style de Kansas City.
Ça a été, à l'époque où ce style-là s'est répandu, le retour du blues dans la musique de jazz. Parce que le blues est toujours plus ou moins là, mais là, il était très utilisé. Même si le morceau que je viens d'entendre n'est pas un blues. On sent que les types, ils savent jouer le blues et que c'est présent dans leur jeu, également dans l'arrangement d'Eddie Durham. Et maintenant, naturellement, voici...
Alors, c'est le pas grand arrangeur.
Le
Big One.
Le Big One. Le plus célèbre de tous, qui n'était pas roi, mais duc.
Duke Ellington.
Exactement.
Quand on l'annonçait sur les scènes où nous, on l'a vu à Paris, c'était Duke. Cook Ellington. Le présentateur insistait énormément sur ce Duke.
En fait, il s'appelait Edouard.
Oui, mais disons-le tout net. C'est vrai qu'il avait l'air très Duke.
Il y a un parallèle à faire avec la musique classique, parce qu'on est dans les œuvres très courtes avec ces morceaux-là, qui peuvent se comparer avec...
Les morceaux pour la danse, les quadrilles, ça c'est un peu plus tard, mais au XVIIe, il y a les menuets, oui. Il y a les sarabandes...
Il y a les tarentelles.
Les tarentelles, ouais. Et c'est des morceaux, effectivement, qui ne sont pas très très longs.
Avec Ellington apparaît un autre parallèle, car Ellington, comme d'autres compositeurs d'ailleurs, mais qui n'ont pas eu l'occasion de les enregistrer, Ellington, lui, il a fait des œuvres de plus longue haleine.
Effectivement, ces œuvres de longue haleine, dans le classique, eh bien, par exemple, c'est une symphonie.
Oui.
Il y a des choses très courtes, comme les sonatines, et puis vous avez des symphonies qui durent une heure et demie, voilà. Parfois deux heures.
Eh bien justement, voici le premier tableau d'une symphonie. L'œuvre d'Ellington, c'est un portrait musical de Shakespeare et de son œuvre. Et le morceau introductif s'appelle...
Un si doux tonnerre. C'est très poétique, surtout avec cette introduction un peu lancinante.
Ah oui.
Ça rappelle des morceaux de musique classique. Devinez lequel c'est.
Très juste. Très juste. Nous n'insisterons pas, mais ça marque quand même que les références d'Ellington sont également dans pas mal de choses. Il a beaucoup écouté Ellington. C'est sûr. Et un jour, il a dit, après avoir abordé Stravinsky, je me souviens, il a dit « Je pense que maintenant, j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je pouvais prendre comme inspiration dans la musique européenne. » Il a dit quelque chose comme ça. Ce portrait de Shakespeare, c'est aussi une bonne devinette, parce qu'on passe le morceau et on dit aux gens « Quel est l'auteur dramatique dont vous avez entendu le portrait ?» Il y en a qui trouvent. Et je me rappelle une cantatrice anglaise qui est passée par ici. Et quand c'était fini, elle m'a dit « Ça, c'est Shakespeare. » Et c'était une anglaise. Les hasards de l'alphabet nous mènent maintenant à...
Gibson.
Andy Gibson.
C'est pas le fabricant de guitare.
Ah non, pas du tout. Encore que peut-être, c'est un cousin, je ne sais pas.
Mais Gibson, c'est un nom très courant, il faut reconnaître.
Nous le connaissons, parce que nous avons fouillé profond. Andy Gibson, c'est un arrangeur simple et efficace. C'est pas difficile, c'est pas du tout indigent, hein, mais... C'est vraiment de la musique qui est faite pour les danseurs, Andy Gibson.
Édition spéciale. Respirer là.
Hein. Ah non, ça c'est sûr. Et en plus, on peut pas dire qu'il fasse dans la dentelle, Andy Gibson.
Ah non.
J'espère que tu apprécies à sa juste valeur l'interlude de Butler qui est au deux tiers du morceau et puis quelques petites citations pour attirer l'attention. C'est, ça s'appelle quand même pas édition spéciale par hasard. C'est presque le crieur de journaux vantant sa marchandise. Hein. Bah, ce côté direct, très dense, tout ça c'est très marqué Kansas City. De même que l'arrangeur qui suit, qui est Buster Harding. Et bah, Buster Harding, il n'est pas beaucoup plus connu qu'Andy Gibson. Il faut vraiment connaître l'histoire du jazz pour se souvenir de ce nom-là. Mais c'est certain que quand tu vois le nom de Buster Harding quelque part, il y a des choses intéressantes derrière. On va pas repasser un morceau du même genre que le précédent. Là, Buster Harding a pondu un arrangement qui est harmonisé de manière, je dirais, assez acidulée.
Oui, il y cultive le contraste.
Exactement.
Le spécial de 9h20. Je suppose que c'est un train.
Eh bien non, ce n'est pas un train.
Peste, c'est quoi ?
C'est simplement l'employé aux écritures de la marque de disque qui faisait l'enregistrement original est sorti de la cabine de son après la prise et a dit au chef d'orchestre « Hey, comment ça s'appelle ça ?» Le chef d'orchestre, il a regardé la pendule du studio et a dit « Ça s'appelle le spécial de 9h20.
» C'est plus simple.
Ah, mais tout à fait. Il y en a un autre comme ça, très célèbre, qui s'appelle « One O'Clock Jump ». C'est tout à fait le même genre d'esprit. Eh bien voici donc, même s'il n'est pas 9h20...
Le spécial de 9h20.
L'arrangeur suivant de notre liste s'appelle...
Neil Hefti.
Il est nettement plus connu que beaucoup de ceux que nous avons passés avant, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une chose qu'il a un petit peu favorisée sur le plan médiatique et de notoriété, c'est qu'il était blanc. La deuxième chose, c'est qu'il est l'auteur d'un tube de jazz qui s'appelait...
Lil Darling.
Et dont d'ailleurs, Henry Salvador avait fait juste un petit disque de Count Basie. Neil Hefti, c'est un type qui résonne volontiers par bloc sonore. Il a... ce point commun avec beaucoup de choses qu'a fait Ellington. Et là, nous vous livrons un arrangement plus connu de lui qui s'appelle...
Pourquoi pas ?
La lettre H nous mène après Harding et Hefti à...
Henderson.
À Fletcher Henderson.
Ah, ça c'est pas n'importe qui là.
Ah non. Alors c'est très curieux parce que c'est finalement le premier chef d'orchestre de Big Band qui soit apparu dans le jazz. Et Fletcher Henderson, pour lui, l'arrangement, c'est une sorte...
Mais une sorte de vocation tardive.
Il n'avait jamais eu le souci de faire enregistrer ses arrangements, sans doute. Où il faisait confiance à des arrangeurs qu'il considérait comme meilleurs que lui. Il y avait un côté assez modeste et consciencieux à Fletcher Henderson, c'est un peu dans son profil.
Ça ne gâte rien.
Non, ça ne gâte rien. Donc il s'est mis à arranger assez tard, et en particulier quand il n'a plus son grand orchestre, pour diverses raisons. Là, on a commencé à jouer ses arrangements, certaines choses qui sont tout à fait étonnantes. Celle que nous allons passer maintenant s'appelle...
un drôle de nom, Quand Bouddha sourit.
Exactement. Eh bien, ce morceau-là, qui fait sourire Bouddha, c'était aussi l'arrangement préféré de Fats Waller dans tout ce que Fletcher avait fait. Fats, qui connaissait très bien Fletcher Anderson, puisque quand il était tout jeune, il avait même tenu le piano dans certaines séances d'enregistrement. En tout cas, c'est très original. C'est assez simple, parce que Fletcher est un type qui a connu des époques fondatrices, donc... Il a ce sens de la simplicité.
Et c'est très riche harmoniquement.
Et puis c'est un merveilleux arrangement, voilà.
Oui, ça c'est une belle musique et qui respire.
C'est vrai que c'est une musique qui respire. Et c'est vrai qu'au premier coup d'oreille, on reconnaît Fletcher Anderson à cette respiration-là. Bouddha souriait et nous maintenant, nous allons passer à une belle figure.
Quincy Jones.
Quincy Jones qui a laissé un livre de mémoire qu'il a écrit lui-même, c'est pas si fréquent. Remarquable. Quincy Jones, c'est le type qui a dit, moi... La retraite, vous plaisantez, ça veut rien dire. C'est quoi la retraite pour vous, c'est s'asseoir en attendant que ça vienne? Pas question. C'est pourquoi Quincy Jones, qui a maintenant un certain âge, il est toujours aussi actif, et il est très connu du grand public, car il se cache également derrière la carrière de gens extrêmement populaires comme Michael Jackson.
Hein, qui l'aurait cru?
Eh ben...
On croit que Michael Jackson faisait tout seul ou avec une toute petite équipe, pas du tout.
En tout cas, dans l'équipe, il y avait un arrangeur fameux. Quincy Jones a fait tout le parcours de la célèbre usine à musique Motown.
Il venait d'un milieu très pauvre, cet homme-là, hein.
Oui, ça, c'est un self-made man intégral.
Oui, il est self-made man et de ce fait, il a énormément d'idées. Il est très technique aussi.
C'est un bon surdoué à la pensée foisonnante, tu vois. Il comprend la musique. Et puis, c'est aussi un grand novateur, Quincy Jones. Alors, ce très grand novateur, il s'est donné les moyens techniques de ses idées. Et ça, ça exige de la part des exécutants, alors là, d'être vraiment au top.
Pointu.
Très, très pointu au point de vue exécution, virtuosité, etc.
L'implacable lutte pour la vie. Il doit savoir ce que c'est.
Aucun doute. L'arrangeur suivant nous emmène vraiment à Harlem. On est dans ce milieu musical extrêmement dense, d'une certaine époque que nous ne préciserons pas.
Bouillonnant.
Oui, ça bouillonne beaucoup. Et là, c'est la star. Il s'appelle...
Jimmy Bundy.
C'était vraiment le monsieur arrangement de tout un tas de big bands. Il a écrit pour un nombre absolument infini de gens. On ne sait pas très bien quoi choisir dans Jimmy Bundy parce qu'il est capable de tout faire. Il a beaucoup écrit pour la danse en particulier. Alors c'était un type assez spécial. Je crois qu'on a raconté ça une fois. Quand il faisait un arrangement, il commençait par prendre la première trompette. Il écrivait d'un bout à l'autre. Après, il prenait la deuxième trompette et ainsi de suite. Et quand il avait terminé avec les ponctuations de batterie, il faisait un petit paquet, l'envoyait chez l'éditeur. C'était un virtuose de l'arrangement, Jimmy Bundy. On a trouvé une très jolie chose de lui.
Féerie en bleu. Thank you.
dans Jimmy Moody, on ne sait plus très bien quoi chercher. Cette jolie petite chose nous avait tiré l'oreille. En
fait. Sa manière de travailler, là, on...
On écrit tout pour un, puis pour le deuxième, pour le troisième. On fait rien ensemble, on a tout dans la tête.
Et ben, c'est exactement la façon qu'avait de travailler Mozart, qui a été raconté par son plus grand ennemi, d'ailleurs. Et c'était exactement comme ça. Il le regardait... On avait l'impression, disait-il, que sa plume, elle fonctionnait de façon automatique. Et ben, ça doit être un peu pareil.
Et oui, et oui.
Jimmy Mundy, comme quoi.
Jimmy Mundy, le Mozart de Harlem.
Voilà.
Et voici maintenant une véritable star. Alors lui, il a même travaillé pour Charles Aznavour. C'est un arrangeur universel.
Et c'est Cy Oliver.
Cy Oliver.
Ah oui, c'est l'intelligence. Fait arrangeur.
Il s'appelait en réalité Melvin James Oliver. Il s'appelle Cy parce que c'est un raccourci du mot psychologue. Et en fait, il était étudiant en psychologie quand la musique est venue le chercher là où il se trouvait.
Il avait une manière très, très fine de percevoir et les gens et les choses qui faisaient que les autres disaient « Ouh là là, ça c'est une tête ».
C'était vraiment ce qu'on peut appeler un grand monsieur. Nous l'avons interviewé quand nous étions très jeunes. C'est une rencontre assez inoubliable.
Oui, on ne s'est peut-être pas tout à fait rendu compte à quel point ce type était extraordinaire, parce que quand on est jeune, tout semble un peu naturel.
Voilà,
mais avec du recul, oh là, oui.
Alors même sur le moment, il était, oui. Il était assez bluffant et très gentil. Mais alors tout de suite, le propos original, le propos également qui va au fond des choses, tout de suite. C'était un type étonnant. Cy Oliver s'est penché sur un certain nombre de choses très diverses. Et un jour, il est tombé sur un morceau populaire. Je suppose qu'il est d'origine canadienne. En tout cas, il en a fait un arrangement absolument magnifique. Surtout si vous aimez les crooners, il y a un crooner là-dedans. Alors, si vous n'aimez pas le crooner, vous n'avez qu'à écouter ce qui se passe derrière, en fond. Et ce morceau s'appelle...
Au bord de la rivière Sainte-Marie.
I left her by the river Saint Marie. We pledged our love until eternity. Along the pebbled pathway from her door, we kissed and then we kissed again and parted on the shore. The Angelus rang out upon the sea. I saw her kneel and say a prayer for me. When winter's gone and spring comes on, I'll meet her by the river Saint Marie. Thank you.
L'alphabet s'étire et nous voilà maintenant à la lettre R. R comme
Redman, Don.
Le nom de Don Redman est associé au premier temps des Big Band. Il a été l'arrangeur de Fletcher Anderson dans les années 20.
Oui, donc ça date quand même.
Mais il a laissé derrière lui beaucoup d'arrangements fort intéressants. Là, nous avons trouvé un morceau où la section de sax sonne merveilleusement bien parce qu'il avait eu l'idée, au lieu de confier la première partie au premier alto, de la confier à un saxo-soprano. Alors, c'est assez spécial comme son de section quand on fait comme ça. C'est une idée à lui. Et le morceau s'appelle
Douce Suzanne.
Douce Suzanne. Mais où sont les vieillards, je vous le demande. Maintenant, tout au bout, nous trouvons le W avec
Wilcox.
Edwin Wilcox. Edwin Wilcox était un pianiste
qui s'est beaucoup inspiré de Benny Carter.
En ce qui concerne les arrangements. Car en tant que pianiste, il n'a pas laissé une trace absolument
impérissable.
Or, comme arrangeur, il était très à la hauteur. Et l'arrangement qui va venir, on en a beaucoup parlé à l'époque, parce qu'il contient un ensemble de saxophones qui a nécessité que le chef de l'orchestre, qui vous allez entendre, qui était également saxophoniste, très très bonne technique, eh bien un de ces saxophonistes, et pourtant c'était des bons, n'a pas pu arriver à jouer sa partie vraiment correctement.
Tellement c'était difficile.
Et là, on entend le chef d'orchestre, nous ne dirons pas qui c'est, on entend une section de sax où le chef d'orchestre joue lui-même, et ça a fait date d'ailleurs, et ça s'appelle
Une fille pour la sieste.
Ça, c'est peut-être beaucoup plus facile à faire qu'à jouer.
Thank you.
après cette revue d'orchestre et d'arrangeur, est-ce que vous avez vu passer l'orchestre amateur là-dedans, madame ?
Ben non.
Eh bien voilà. Et maintenant, qui est le plus grand arrangeur de tous ? Eh bien, on va tous les renvoyer dos à dos comme dans l'école des fans. Mais nous allons maintenant faire entendre l'arrangeur par excellence, c'est-à-dire tout le monde arrangeur.
Explique-toi un peu.
Eh bien, c'est simple. Il y a des big bands où les musiciens trouvent quelque chose tout seuls, collectivement. On ne sait pas très bien comment. Ils en font un arrangement qui n'est jamais écrit, qu'ils savent très bien jouer, qui s'appelle un arrangement de tête.
C'est-à-dire que personne n'a de choses écrites. On leur dit, faites-vous-même vos arrangements
non,
sur place.
C'est pendant une répétition, une jam session, une idée qui commence à venir. Là, chez ce genre de musicien-là, les idées commencent à venir, elles ne restent jamais au panier. Si elles plaisent à d'autres, ça fonctionne.
C'est-à-dire, il y en a un qui commence et les autres suivent.
Ça vient tout seul. Et puis, au bout de 3 ou 4 coups, chacun a pris ses marques et ça devient un arrangement comme un autre. Mais il est collectif, il est d'origine collective, il n'est pas écrit. Et ça s'appelle un arrangement de tête. Voilà.
Ah ben,
c'est une des ressources de Big Band qui est assez peu connue. Et celui qu'on va vous passer maintenant s'appelle...
À dormir debout.
Et justement.
C'était la planèse du jazz.
À la planèse prochaine.